Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour, bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Bonjour Jimmy, vous faites une drôle de tête, vous me trouvez trop énergique.
Bah là vous êtes très speed, ouais. Mais c'est agréable, il y a de l'énergie. Bonjour bon, Mélanie, bonjour
bien.
À tous.
J'espère que vous êtes en forme aussi. Allez, dans notre grand dossier du jour, aujourd'hui, focus sur l'endométriose, une maladie qui touche 10% des femmes, malheureusement bien souvent encore, sans même le savoir. D'ailleurs on en parlera, mais l'un des problèmes majeurs, c'est l'errance médicale à laquelle les patientes sont confrontées. Tenez-vous bien, il faut encore 7 ans en moyenne pour obtenir ne serait-ce que le diagnostic d'endométriose. Alors pour nous aider à y voir plus clair et à mieux vivre cette pathologie au quotidien, notre invitée du jour, ce sera le docteur Marie Ceccarelli. Elle est médecin généraliste spécialiste de l'endométriose. Elle est également cofondatrice de l'application Easy Endo, un outil pour les femmes concernées pour les accompagner au quotidien et leur faciliter la vie. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, connaissez-vous le rhume de hanche? Rien à voir avec le nez qui coule, bien sûr. C'est une affection qui touche principalement les enfants autour de 2-3 ans. Alors comment le reconnaître et surtout le soigner? Jimmy fera le point. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de l'amour, de la sexualité, parfois un peu compliquée quand on vit en colocation.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par cette question d'Arthur aujourd'hui, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'ai une petite question pour vous. Mon fils de 7 ans parle énormément dans son sommeil, presque toutes les nuits. Malgré tout, il ne dort pas si mal. Est-ce que le fait de parler comme ça en dormant, c'est un problème ou un signe que mon enfant a une mauvaise qualité de sommeil? Merci pour votre réponse, bonne émission.
Alors pour vous répondre Arthur, nous avons interrogé pour vous le docteur Sylvie Royan-Parola, elle est psychiatre et spécialiste du sommeil, on l'écoute.
Le fait de parler en cours de nuit, ça s'appelle de la somnolie, c'est-à-dire c'est une parasomnie dans notre jargon médical. C'est un trouble qui apparaît essentiellement en sommeil profond. Or, les enfants ont un sommeil extrêmement profond. Donc, c'est très fréquent chez les enfants. C'est tout à fait, presque normal. On va tous un peu parler, sauf qu'il y a effectivement certaines personnes qui vont parler plus souvent ou plus par période. Donc ça survient souvent en début de nuit et ça n'a aucun signe de gravité. Et surtout, ça ne gêne pas du tout en fait le déroulement du sommeil. Donc c'est pour ça qu'il est en forme le lendemain.
Voilà, c'était le docteur Royan-Parola au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va prendre une autre question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est la question de Mathéo.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ma question est la suivante. J'ai eu la Covid il y a un peu plus de 3 mois avec quelques gènes respiratoires et maintenant que je me suis remis sur pied, j'aimerais bien reprendre une activité physique comme la course à pied ou le tennis, mais j'ai quelques appréhensions. Selon vous, est-ce qu'il n'est pas trop prématuré? Et sinon, comment puis-je faire ma reprise sans effet secondaire?
Alors Jimmy, reprendre la course à pied, le tennis après le Covid, alors j'imagine que tout dépend bien sûr l'état du patient, mais alors s'il se pose la question, moi je me dis Mathéo quand même, c'est peut-être qu'il ne va pas si bien que ça, parce qu'on le sent non quand même, si on est apte à reprendre une activité physique ou pas?
Oui, alors il y a deux types de patients, les patients qui vont être hospitalisés, qui vont être mis sous oxygène, ça veut dire qu'une partie du poumon est détruite de façon temporaire, qui vont avoir besoin d'une réhabilitation respiratoire, c'est-à-dire d'un réentraînement à l'effort. Et ça va concerner aussi des jeunes et pas que des vieux, car on a souvent présenté cette maladie comme le coronavirus, une maladie tueur de
personnages uniquement.
Mais non, c'est faux. Ça tue effectivement les vieux. Les vieux vont être vaccinés, donc ils vont être protégés et ils vont sortir des hôpitaux. Et on va se retrouver avec des gens de plus en plus jeunes, avec probablement des séquelles. Donc si vous avez fait un passage par la case hôpital, vous devez, avant de reprendre l'effort, avoir un avis médical pour savoir où est-ce que vous en êtes. À l'inverse, lorsque vous n'avez pas été hospitalisé, si jamais vous avez...
Qui a l'air d'être son cas, il n'a pas signalé une hospitalisation.
Vous pouvez être gêné pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il peut y avoir une désadaptation à l'effort. Pendant un long moment, vous n'avez plus pratiqué d'activité physique, mais finalement, ça va rentrer dans l'ordre. Et puis, vous avez le droit d'avoir des syndromes de Covid long, c'est-à-dire c'est 10 à 15% des malades qui vont avoir des syndromes qu'on ne sait pas trop expliquer encore pour le moment. On espère que ça va rentrer spontanément. Et puis, dans un certain nombre de cas, des patients jeunes sans oxygène vont avoir aussi une fibrose pulmonaire, c'est-à-dire l'équivalent d'une cirrhose du foie. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas une maladie anodine. Et même si on est jeune et qu'on pense qu'on est en bonne santé, eh bien, on peut avoir un véritable impact sur sa santé et sur le reste de ses activités physiques.
Alors, dans le cas de Mathéo, on n'a pas le détail de sa santé, mais je pense que sans prendre de risque, on peut lui conseiller peut-être d'essayer, non? Enfin, il a l'air d'aller pas trop mal.
C'est ça.
Il a qu'à aller courir et puis il verra bien s'il est gêné ou pas, non?
Oui, avant de courir, il y a monté des escaliers. Si vous vous rendez compte dans la vie de tous les jours que c'est compliqué de monter une côte alors que d'habitude vous le faisiez correctement, que monter 3 à 4 étages, vous avez besoin de vous arrêter arrêter, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Dans ces cas-là, allez voir le médecin, il fera une auscultation plutôt
déjà
simple.
Déjà généraliste, hein, c'est ça,
exactement,
pour faire un petit bilan.
Exactement, on n'a pas besoin d'aller voir un spécialiste dans un premier temps. Et puis, si on a le moindre doute, on vous adresse vers des spécialistes parce que...
Des pneumologues en général,
des pneumologues,
pour
mais aussi parfois des cardiologues. Il y a certains patients, des jeunes, qui vont avoir ce qu'on appelle des myocardites. C'est une inflammation de l'enveloppe du cœur et du cœur qui vont faire qu'ils vont être essoufflés et on n'a pas trop d'explications. Les examens sont normaux. Et puis, quand on fait d'autres trucs un peu plus poussés, eh bien, on se rend compte qu'il y a une inflammation. Et donc, il faut consulter si jamais on a du mal à retrouver son souffle.
Si quelqu'un a du mal à retrouver son souffle, justement, est-ce qu'on ne va pas peut-être prescrire aussi des examens d'imagerie pour aller vérifier l'état des poumons ? Ça sera peut-être intéressant.
On aura le scanner, je pense, assez facile dans un second temps. Pour l'instant, il n'y a pas de vraie recommandation. On ne prescrit pas de scanner à tout le monde et peut-être qu'il faudra le faire. C'est à discuter avec des scanners petite dose. Et puis, ne pas hésiter à ce moment-là à voir le pneumologue. On fera des épreuves fonctionnelles respiratoires pour savoir si réellement il y a un impact. Est-ce que vous avez développé l'équivalent d'un asthme ou encore une IRM cardiaque pour rechercher cette fameuse myocardite au cas par cas, mais allez voir votre médecin traitant.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons vous décrypter l'endométriose. Savez-vous précisément ce qu'est cette maladie qui touche tout de même une femme sur 10? Une maladie qui peut s'avérer être un véritable parcours du combattant, enfin de la combattante en tout cas, puisqu'en moyenne il faut 7 ans pour savoir qu'on en souffre, avoir un diagnostic précis. On va vous détailler comment on peut faire mieux et comment vivre surtout mieux avec cette endométriose. C'est dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Marie Ceccarelli. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Jimmy. Vous êtes médecin généraliste spécialisé dans le suivi de l'endométriose et c'est notre sujet du jour. Vous êtes également, on va en parler juste après, la cofondatrice donc avec le docteur Élodie Hénaud d'Easy Endo, donc une application web pour les femmes concernées par cette maladie, pour les aider à mieux la vivre au quotidien. Et donc les femmes concernées justement par cette maladie, il y en a beaucoup. Combien environ en France ?
Environ 1,5 million. Parce qu'on estime à une femme sur 10, voire une femme sur 7, puisqu'il y a des sous-diagnostics.
Donc des femmes qui l'ont probablement, qui souffrent en silence, sans même savoir que c'est ça.
Oui, sans être diagnostiquées.
Et vous dites donc 10% de la population, et elles sont sous-diagnostiquées, ça veut dire que quoi ? Elles sont dans une forme d'errance médicales ou elles font pas d'examen ou elles font des examens mais on les renvoie chez elles.
Je pense qu'il y a de tout. Il y a des femmes qui ne parlent pas de leur douleur, qui pensent que c'est normal. Parfois c'est des formes familiales, donc leur mère leur a dit moi j'ai la même chose, tu tiens de moi, mais c'est pas forcément une pathologie. Et puis après il y a celles qui consultent et puis ça n'aboutit pas tout de suite à un diagnostic et il y a une errance.
De combien de temps en moyenne ?
C'est estimé à 7 ans.
C'est énorme.
C'est une moyenne, hein. 7 ans, c'est énorme.
C'est-à-dire qu'il y en a, c'est 15 ans.
Et il y en a, c'est 15 ans, et on les voit arriver dans des états pas possibles en consultation.
États pas possibles, c'est-à-dire des douleurs, et puis donc même psychologiquement, c'est très lourd.
Physique et psychologique, oui, très marqué par la non-reconnaissance et l'absence de diagnostic et l'incompréhension par rapport à ce qu'elles ressentent et des violentes douleurs.
Ouais. Comment on explique ce constat quand même terrible, 7 ans pour avoir un diagnostic en moyenne ? Est-ce que si ce n'était pas une maladie d'homme, moi je me dis, peut-être on s'y serait intéressé un peu plus tôt.
Bah, déjà, c'est une maladie qui est liée aux règles. Les règles, c'est tabou, donc c'est difficile d'en parler. Je ne sais pas si les hommes avaient des règles, ce serait aussi tabou, j'en sais rien. Mais il y a aussi un manque de formation des médecins, un manque d'écoute, un manque de reconnaissance de la douleur. Mais si on formait mieux les médecins déjà à interroger les patientes sur le niveau de leur douleur.
Et puis ce truc intégré par nous, les femmes, finalement, depuis toute petite, quand t'as tes règles, t'as mal, c'est normal. Quoi.
Oui, c'est une idée reçue comme ça. Et alors que quand c'est invalidant, c'est pas normal du tout. Quand on reste couché 2 jours, 3 jours par mois à cause de ces règles, ce n'est pas normal.
Justement, c'est pour bien comprendre, c'est que l'endométriose, elle a un véritable impact sur la santé physique et aussi psychique des femmes qui en souffrent.
Exactement.
C'est pas juste avoir des règles douloureuses et d'avoir un peu mal au ventre.
Il y a des répercussions physique avec des douleurs qui deviennent vraiment invalidantes, on ne peut plus aller au travail, on ne peut plus aller à l'école, et psychologique, ça peut mener à des dépressions très profondes, oui.
Et puis on imagine, si on est déclaré dépressive alors qu'on n'a pas de diagnostic, c'est en plus un cercle vicieux.
Exactement.
Non seulement on vous dit que c'est dans votre tête et que vous êtes peut-être un peu fragile.
Il y a un isolement après, un isolement aussi familial et un isolement professionnel et personne ne comprend ce qui se passe. Parce que c'est invisible, c'est une maladie invisible.
Docteur, on va revenir aux bases quand même pour bien comprendre de quoi on parle, parce que là on a parlé de douleurs, de règles. C'est quoi l'endométriose et c'est quoi même l'endomètre ? Puisque c'est de là que tout repart finalement.
Oui, l'endomètre, c'est tout simplement la muqueuse qui tapisse l'utérus, donc celle qui gonfle avant les règles et qui tombe et qui fait couler le sang, qui saigne. Et l'endométriose, c'est le fait d'avoir cette muqueuse qui va s'installer ailleurs.
Ça va se répandre un peu partout.
Ouais, ça se répand et ça se fixe sur les tissus. Alors, la plupart du temps, autour de l'utérus.
Ça peut être
sur
quoi,
les ovaires,
par exemple voilà.
Sur les ligaments utérosacrés derrière l'utérus, sur la vessie, sur le rectum. Donc ça, c'est proche de l'utérus, mais parfois à distance aussi.
Mais toutes les femmes ne vont pas avoir cette évolution. Certaines vont avoir une forme localisée et d'autres vont en avoir partout.
Il y a des tableaux voilà, très légers ou d'autres très sévères. Et il y a une multitude de tableaux différents dans l'endométriose.
C'est quoi les causes de cette maladie? Pourquoi tout d'un coup cette muqueuse se met à se répandre en dehors de l'utérus? Est-ce que par exemple, vous disiez tout à l'heure, il y a des formes familiales, c'est-à-dire qu'une maman qui a eu de l'endométriose, il y a de fortes chances pour que sa fille, ses filles souffrent de ça?
Oui, il y a des. Alors les causes, on ne les connaît pas vraiment.
Pas encore tout.
On a des théories, il y a des hypothèses, mais il y a des formes familiales, mais pas toujours. Ce n'est pas toujours familial. Il y a des formes isolées aussi. Donc il y a eu la théorie de la migration justement de reflux par les trompes des cellules de l'endomètre qui vont s'installer donc par reflux des trompes. Il y a la théorie de transmission in utero aussi. Et puis il y en a plus
qu'avant de l'endométriose ou c'est parce qu'on en parle un peu plus? On ne sait pas si c'est
en tout cas ça existe depuis la nuit des temps.
Ouais.
Après est-ce qu'il y en a plus qu'avant? On en parle plus, ça c'est sûr, mais c'est difficile de dire.
Alors vous avez créé une application Easy Endo. L'objectif premier, c'est d'aider les femmes touchées pour mieux comprendre leur maladie. Elles vont trouver quel type d'information? Puisqu'on se dit d'un côté sur Internet, j'ai un accès assez infini. Donc quelle est la plus-value justement sur cette application?
Dans Easy Endo, il y a 6 services. Il y a un service qui s'appelle À savoir, qui justement donne des informations médicales qui est fait par un comité scientifique d'experts, donc pluridisciplinaire. Donc il y a toutes sortes d'informations sur ce que c'est que la maladie, les symptômes, les examens complémentaires, les traitements, comment aussi bien préparer sa consultation avec son spécialiste, comment bien préparer un projet de grossesse, des choses très concrètes.
Donc, des infos validées scientifiquement, voilà. En plus c'est important, voilà, parce que sur ça. Internet malheureusement on peut trouver tout et n'importe quoi. Cette appli web, comment on la trouve? Combien ça coûte pour les utilisatrices?
Alors tout simplement sur Internet, c'est www.easyendo.fr. Et on s'inscrit en rentrant son nom, son prénom et son adresse mail. Et on a accès
15 jours gratuits.
Voilà. Et ensuite, c'est un abonnement de 5 euros par mois. Et il y a 2 mois offerts si on s'engage sur un an.
Très bien. Docteur Ceccarelli, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, on vous dit tout sur l'endométriose aujourd'hui. Et dans un instant, on va passer notamment aux signes qui doivent pousser les femmes et même les adolescentes parfois à consulter. Vers quel professionnel se tourner pour avoir un diagnostic rapide et clair? Quels sont les examens qui permettent de le confirmer? On va tout vous expliquer et c'est sur Europe 1.
Son rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Marie Ceccarelli. Vous êtes médecin généraliste spécialisé dans le suivi endométriose et puis vous êtes la cofondatrice donc d'Easy Endo, une application web pour aider et accompagner les femmes concernées par cette maladie. Alors, docteur Ceccarelli, autre objectif de votre appli, c'est faire sortir les femmes qui ont de l'endométriose de l'isolement, de leur permettre finalement de partager leurs ressentis, parce qu'il y a un gros, gros besoin de ce côté-là.
Oui, tout à fait, parce que souvent, après une errance médicale et une non-reconnaissance de la maladie pendant des années, elles ont déjà très mal vécu aussi sur le plan psychologique, donc elles ont beaucoup de souffrance et ont besoin d'échanger sur leur parcours ou de se donner des conseils aussi.
Il y a un forum pour ça.
Et donc sur Easy Endo, nous avons un forum et elles peuvent échanger de façon anonyme et bienveillante. Voilà.
Est-ce que, parce qu'on comprend bien que ça va affecter leur qualité de vie, mais est-ce que ça a un impact sur leur vie familiale, professionnelle, avec peut-être l'absentéisme? C'est peut-être mal vu.
Il y a beaucoup d'absentéisme. Oui.
Et en plus, ça doit peut-être mal vu dire à cause de l'endométriose, on doit se dire, oh, elle a des règles douloureuses.
Ça peut aller jusqu'où? C'est ça.
Voilà, jusqu'où ça
va jusqu'à des femmes qui abandonnent certains métiers parce qu'elles ne s'est pas adaptées à la maladie, en fait. C'est une maladie qui génère beaucoup de fatigue, de douleurs invalidantes. Et quand c'est un travail physique ou avec des alternances jour-nuit, ou voilà, quand c'est beaucoup de stress aussi, parfois, ça génère beaucoup de douleurs. Donc, ça a un impact sur leur vie professionnelle. Oui.
On va passer au diagnostic de cette maladie. C'est quoi les signes pour qu'on les ait bien en tête? Une fois pour toutes, les signes, donc les symptômes qui doivent faire penser à ça. Ça peut commencer d'ailleurs à quel âge, ces symptômes?
Dès les premières règles. Ouais. Il faut y penser.
Donc,
dès
12
les
ans, 13 ans, c'est possible.
Oui, c'est possible. Et en premier, c'est les douleurs pendant les règles. Donc, il faut toujours interroger sur l'intensité de la douleur. Est-ce qu'elle est invalidante? Est-ce que systématiquement, la personne prend des antalgiques? Sinon, elle ne peut pas vivre sa journée normalement. Après, ça va être aussi une certaine abondance de règles, des règles assez abondantes. C'est pas toujours le cas, mais on retrouve aussi ça.
Des règles un peu hémorragiques, ça peut
alerter, mais c'est pas toujours. Mais en tout cas, ça peut alerter. Et puis des douleurs pendant les rapports sexuels. Ensuite, Donc ça, c'est vraiment les trois symptômes importants. Et il y a aussi beaucoup de troubles digestifs, ballonnements, difficultés à digérer.
Qui peut faire penser un peu au syndrome du côlon irritable,
exactement,
hein, vous m'avez dit.
Ouais. Exactement, c'est souvent associé dans l'endométriose.
Donc ça doit faire penser à l'endométriose.
Et je dirais que tout symptôme qui est rythmé par les règles, finalement, doit faire penser à l'endométriose.
Et c'est une maladie qui évolue comment? Si ça commence à l'adolescence, est-ce que durant toute sa vie de femme, on va avoir des symptômes qui vont aller de pire en pire, ou est-ce que ça peut s'améliorer ou régresser ou même peut-être disparaître spontanément? Enfin, comment évolue la maladie?
Souvent, ça, quand ça commence tôt, ça va en s'aggravant. Les symptômes vont en s'aggravant, pas forcément les lésions, parce que c'est une maladie assez curieuse où il y a une discordance anatomo-clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la gravité des lésions et la gravité des symptômes.
Ce que vous appelez les lésions, encore une fois, c'est cette muqueuse qui va aller se mettre sur d'autres organes, par exemple.
Ce qu'on peut observer à l'échographie, voilà, par exemple, ou à l'IRM. Donc, on peut avoir des lésions très, très légères, minimes, presque imperceptibles à la radio, et avoir des souffrances très importantes quand même. Donc, il y a des formes évolutives, mais c'est souvent lent. Ça évolue pas comme ça très, très rapidement. Et puis, donc, des kystes qui peuvent grossir, des nodules qui peuvent grossir avec le temps, au fur et à mesure des règles. Mais parfois, c'est stable sur le plan des lésions. Mais par contre, les symptômes finissent toujours par, à un moment donné, prendre beaucoup plus d'ampleur.
Devant les signes dont on vient de parler, vers quel professionnel il faut se tourner en premier, je veux dire, pour être sûr de ne pas passer à côté? Parce que tous les professionnels de santé, on va détailler lesquels, mais ne sont pas forcément formés à l'endométriose, quoi.
Ça peut être son médecin généraliste, tout simplement, s'il est bien informé.
Dans un premier temps, déjà.
Dans un premier temps, il peut lui-même orienter vers des radiologues spécialisés pour faire un diagnostic. Ou le gynécologue, ou la sage-femme aussi, si c'est elle qui fait le suivi gynécologique.
Parce que c'est ça la suite. Après, c'est l'imagerie, finalement, pour vraiment confirmer le diagnostic. Qu'est-ce que vous prescrivez comme imagerie?
Alors, si c'est une très jeune patiente qui est vierge, ce sera une IRM pelvienne. Et sinon, l'examen de référence, c'est l'échographie pelvienne, mais endovaginale.
Et cette échographie, on l'a fait dans n'importe quel centre de radiologie, parce que je crois savoir que les radiologues ne sont pas tous formés.
Exactement.
Sans manquer de respect aux radiologues, évidemment.
Oui.
À l'endométriose, hein, chacun sa spécialité. Hein.
Il vaut mieux aller voir des radiologues qui sont expérimentés, et qui ont vraiment, depuis des années, vu beaucoup de lésions.
Et comment on fait pour savoir ça quand on est une patiente? Parce qu'on vous donne une ordonnance, on vous dit aller faire une écho.
Ouais. On va là où il y a de la place parfois.
Et puis mais maintenant, on va sur Doctolib, on prend le premier rendez-vous venu. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous le plus vite possible, ou est-ce qu'on se dit, même s'il y a de l'attente dans un centre de référence, c'est peut-être mieux?
Aujourd'hui, il y a des centres de l'endométriose quand même qui existent. Et puis, vous avez aussi des associations de patientes qui répertorient aussi des praticiens spécialisés. Donc, ça peut quand même aider à orienter. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup à Paris.
Mieux vaut attendre peut-être quelques semaines de plus et aller voir quelqu'un qui sait vraiment
détecter
toutes les lésions.
Exactement, à mes patientes. Il vaut mieux attendre 2-3 mois, mais avoir le bon radiologue référent.
Alors, parfois, on découvre cette maladie trop tard. On l'a dit, il y a une énorme errance médicale sur cette pathologie. Et parfois, c'est au hasard, parce qu'une femme essaye de concevoir un enfant, n'y arrive pas. Justement, est-ce qu'avoir de l'endométriose, ça veut dire systématiquement souffrir d'infertilité?
Non, pas forcément du tout. Il faut rassurer les patients qui nous écoutent, parce qu'on parle d'hypofertilité, et ça concerne seulement 40% des femmes qui ont de l'endométriose. Donc, il y a quand même 60% qui n'auront pas de problème pour avoir un enfant.
Malgré tout, on imagine que la femme qui souffre d'endométriose va se dire « je vais avoir un problème de fertilité ». Justement, je crois que sur l'application Easy Endo, vous avez un rendez-vous avec un expert, c'est ça, qui peut répondre à d'éventuelles questions de temps en temps?
Alors, pas en direct, mais il y a un...
Easy Live.
Ah oui,
deux heures d'échange avec un expert.
C'est le live. Ouais. Oui, ça, ce sera un rendez-vous mensuel, Easy Live, à 2 heures avec un expert, mais ça traitera de plein de sujets. Le mois dernier, on a parlé de la micronutrition, par exemple. Le mois qui vient, c'est avec le docteur Eric Petit sur le diagnostic de l'endométriose. Donc, il y aura aussi la fertilité qui sera abordée.
Sur l'appli Easy Endo, le but, c'est de faciliter la vie de ces femmes. Et il y a tout un environnement personnalisé, c'est-à-dire on peut faire quoi qu'il soit que pour moi et pas pour ma voisine?
Alors, c'est l'agenda qui permet d'annoter ses symptômes au quotidien, à l'intensité de ses douleurs, des saignements, le stress, la nuit qu'on a passée, si on a bien dormi. On a tout ça. Et on peut ensuite avoir une synthèse graphique qui permet de montrer à son médecin en fait ce qui s'est passé les derniers mois.
Ça fait
entre
un bon résumé
rendez-vous.
En consultation.
Voilà. Donc ça permet aussi de gagner du temps pour le médecin.
Très bien. Docteur Segarelli, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous éclaire cet après-midi sur l'endométriose. Juste après, on va s'intéresser quand même aussi au traitement de cette maladie. Quelles sont les meilleures solutions thérapeutiques pour ces femmes? Doivent-elles toutes être opérées? On y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Marie Ceccarelli. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste spécialisé dans le suivi endométriose et la cofondatrice d'Easy Endo, donc une application web qui aide les femmes et qui les accompagne, celles concernées donc par cette maladie, l'endométriose. Alors, il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué comment se fait, grosso modo, on va dire, hein, le diagnostic de l'endométriose. Et à présent, on va passer quand même au traitement. Admettons une adolescente, par exemple. Vous avez dit que ça peut démarrer parfois dès les premières règles. Quel est le premier traitement que vous allez lui proposer si vous avez une ado qui arrive, je sais pas, 15 ans, première règle, enfin les premières règles et des douleurs déjà atroces, quoi?
Bah, si elle vient à 15 ans et qu'elle a des douleurs atroces, on va lui donner une pilule. Et si le diagnostic de l'endométriose...
Pilule contraceptive, en fait, pilule, hein, c'est
ça ? Mini-pilule contraceptive, celle qu'on donne en première intention. Et si c'est vraiment confirmé qu'elle a de l'endométriose, on va lui couper les règles. Donc une pilule en continu. Voilà, il faut arrêter les saignements.
On ne s'arrête pas à la fameuse semaine, c'est une pilule sur vraiment tous les jours de la semaine. Quoi,
exactement.
Hein, et du
mois, au lieu de s'arrêter comme c'est prévu pour 7 jours, 4 jours, ça dépend des pilules. Là, elle enchaîne tous les jours à heures régulières pour ne plus saigner.
Ça, c'est le traitement de référence.
Ça,
en
c'est
fait,
le traitement de référence puisque c'est une maladie chronique liée aux règles et qu'à chaque fois qu'elle a ses règles, ça met de l'huile sur le feu, ça réinflamme tous les tissus.
D'accord.
Mais du coup, si on n'a plus de règles, est-ce qu'on stoppe l'évolution de la maladie ou c'est juste on calme les symptômes? Donc ça veut dire que c'est pas simplement qu'une histoire de règles,
c'est un peu curatif.
Curatif,
ça disparaît pas. Ouais. Donc on guérit pas, malheureusement, parce qu'il faut bien avoir ça en tête.
Il y a rien qui guérisse aujourd'hui.
Non, et même quand on se fait opérer, ça n'enlève pas les lésions. Enfin, ça enlève les lésions, mais ça n'enlève pas la maladie. Et les lésions peuvent revenir si on remet les règles en place.
D'ailleurs, comment? Parce que là, vous dites c'est une maladie chronique, donc on ne guérit pas finalement, mais c'est un diagnostic d'annonce. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on balance aux femmes, bah vous avez de l'endométriose comme vous avez un problème de thyroïde, alors que finalement, c'est un vrai truc qu'on dit.
Et c'est un vrai coup de bambou, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça aussi que c'est important de s'entourer des bonnes personnes, des bons praticiens qui connaissent bien, qui peuvent vraiment accompagner de façon pluridisciplinaire. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé Easy Endo, pour pas qu'elles se sentent seules et perdues face à leurs interrogations, leurs peurs face à cette maladie avec qui elles vont vivre longtemps.
Ouais, à la trentaine, par exemple. Là, on a parlé de l'adolescence. Donc, y a toujours... Avec cette pilule, on peut continuer pendant des années. C'est le traitement. Mais je dis à la trentaine, mais même à 25 ans, si une femme veut avoir un enfant, pour le coup, la pilule contraceptive, il va falloir l'arrêter. À cette période-là, comment on fait du coup? Parce que bon, on veut avoir un enfant, mais ça veut dire que les douleurs reviennent. Comment on gère cette période?
Il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir l'accompagner. Mais effectivement, on va être obligé d'arrêter la pilule qui bloque les règles et la maladie. Donc, potentiellement, les douleurs vont revenir. Et on a envie que la grossesse arrive vite, on a envie que ça marche bien. Donc moi, j'aime bien faire des bilans de fertilité un petit peu en amont ou assez rapidement en tout cas, pour écarter tout autre obstacle et ne pas laisser la femme avoir ses règles et souffrir des mois et des mois, alors que finalement, il y avait aussi un problème sur les spermogrammes ou sur les trompes. Enfin, écarter tout autre obstacle et encadrer. Et puis,
pour aller le plus vite possible, parce que d'ailleurs, pendant la grossesse, elles sont généralement bien, elles sont améliorées en fait à cette période-là.
Exactement.
Il n'y a plus de règles.
Il n'y a plus de saignement et souvent, la grossesse, c'est comme une pilule en continu. Au niveau de l'endométriose, ça les calme.
Et du coup, dans le cadre du bilan de fertilité, est-ce qu'il vous arrive de proposer de congeler des ovocytes en disant... Si jamais la maladie évolue, eh bien on ne sait jamais. Si vous avez un désir de grossesse dans quelques années, on aura ça de côté. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire en France?
C'est quelque chose qui commence à se faire. C'est assez récent. Ça ne se faisait pas il y a 5 ans. Mais il y a quelques centres effectivement qui commencent à le proposer pour des femmes qui approchent la trentaine et du coup il y a forcément un vieillissement des ovaires et donc avec ce risque aussi d'avoir une insuffisance ovarienne plus de l'endométriose et que ce soit vraiment compliqué de pouvoir avoir un enfant.
Je crois qu'on met aussi parfois ces femmes, les femmes qui souffrent d'endométriose, en ménopause forcée. À quoi ça sert, ça, par exemple?
La ménopause chimique, c'est des cas particuliers. Par exemple, avant la chirurgie, pour vraiment assommer les lésions, les assécher au maximum et préparer une chirurgie dans de bonnes
conditions.
C'est
pas un traitement, quoi.
Au long cours, dans des cas particuliers aussi, des femmes qui ont vraiment des contre-indications importantes à prendre la pilule, comme un antécédent de cancer du sein, par exemple, et qui souffrent d'endométriose. Donc, on peut aussi proposer
une ménopause chimique. D'accord, dans ces cas-là.
Est-ce que, d'un point de vue chirurgical, on peut être amené à retirer un utérus en se disant plus d'utérus, plus de maladie?
Bon. C'est pas vrai, parce que plus d'utérus, plus de maladie sur l'utérus. Mais quand la maladie est autour de l'utérus, malheureusement, il reste encore des lésions autour. Mais on peut être amené parfois, et c'est des cas extrême et c'est mûrement réfléchi, ça ne doit pas être fait comme ça rapidement, mais quand l'utérus lui-même est très malade, quand il y a l'endométriose intra-utérine qui est très importante, il y a parfois pas d'autre solution malheureusement.
Dans certains cas, donc, il est nécessaire d'opérer, ça fait partie du traitement, évidemment. Dans quel cas, par exemple, on opère? Parce que je crois savoir que par le passé, même encore aujourd'hui, on a beaucoup trop opéré les femmes. Alors, quand est-ce qu'il faut opérer?
Il faut opérer quand le traitement médicamenteux ne suffit pas à soulager toutes les douleurs.
Donc, opérer pour aller retirer les lésions, la muqueuse qui est partie ailleurs.
Par exemple, quand il y a des nodules digestifs trop importants, qu'il y a des troubles digestifs encore invalidants, quand il y a des douleurs pendant les rapports sexuels qui ne passent pas malgré un traitement bien conduit, on va aller retirer le nodule qui fait mal aussi pour permettre d'avoir une vie sexuelle normale. Il y a des kystes aussi très importants au niveau des ovaires, dans un cas de désir de fertilité aussi, de grossesse. On va retirer les ovaires. Alors, ça peut être simplement une ponction. Enfin, il y a des techniques qui sont pseudo-chirurgicales.
C'est un peu au cas par cas, ces interventions, voilà, de toute façon.
C'est une décision collégiale, donc dans des centres. Et puis, on se réunit pour décider de la chirurgie.
Alors, ça paraît peut-être pas évident pour tout le monde, mais pourquoi est-ce que c'est une décision collégiale? Puisqu'on pourrait se dire, si une femme a eu un ou deux enfants, qu'elle n'en veut plus, ben on n'a qu'à lui retirer l'ovaire, l'utérus, et puis on n'en parle plus. Alors qu'il y a un impact, évidemment.
Oui, il y a un impact, parce qu'en plus, les ovaires, on ne les retire pas comme ça. Ça fait une ménopause brutale, et là, ce n'est pas souhaitable pour la patiente. Et puis, je vous dis, moi, j'ai des patientes qui n'ont plus d'utérus et qui continuent de souffrir de douleurs de l'endométriose, parce que tant qu'elles ne sont pas en ménopause, justement, les lésions d'endométriose fluctuent en fonction des hormones du cycle, et ça continue à faire des douleurs.
Si une femme se voit justement proposer une intervention, puisqu'on a dit qu'on en a fait trop par le passé et que même encore aujourd'hui, parfois, on opère un peu trop vite, comment être sûr quand on nous propose ça, qu'on n'est pas tombé sur un accro du bistouri, entre guillemets? Ça vaut le coup de demander un deuxième avis, ça sur votre application, on peut trouver des ressources?
Oui, c'est plus rassurant que ce soit des décisions collégiales, justement, dans des centres de référence qui s'occupent d'endométriose, qui ont l'habitude, oui.
À la ménopause, c'est réglé, l'endométriose, c'est fini puisqu'il n'y a plus de règles. Donc, est-ce que là, ça y est, c'est terminé?
Oui, on peut dire qu'en tout cas, à part les adhérences ou justement les patientes multi-opérées qui vont avoir beaucoup d'adhérences, elles vont garder quand même des troubles fonctionnels. Mais oui, les lésions, elles sont atrophiées avec la ménopause, donc il n'y a plus d'inflammation. Et la plupart du temps, on n'y pense plus.
Ça fait quand même un paquet d'années jusqu'à la ménopause à vivre avec.
Donc on l'a compris, vivre avec une endométriose, c'est un parcours parfois du combattant semé d'embûches. Et d'ailleurs, dans votre application, vous avez une rubrique « Que faire si ?» qui peut aider à prendre quel type de décision, par exemple?
Alors, c'est pour remplacer un petit peu la consultation en urgence du médecin pour pallier à des interrogations. Par exemple, j'ai oublié ma pilule, que faire si? Je saigne alors que je prends bien mon traitement, que faire si? Je prends bien mon traitement, mais j'ai toujours des douleurs, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on répond à un questionnaire et on a des informations personnalisées.
Ah, c'est un peu ce qu'on aurait fait sur Google, en fait, quasiment, sur le moteur de recherche, que faire si, alors que là,
mais
vous avez une réponse.
Mais avec des infos vérifiées, validées par votre comité scientifique.
Et issues de mon expérience de terrain, c'est-à-dire c'est toutes les questions récurrentes, les appels en urgence, il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc
on va gagner du temps et ça nous facilite la vie, en tout cas, aux femmes concernées donc, par l'endométriose. Merci beaucoup, docteur Ceccarelli, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et donc, on le rappelle, pour celles qui voudraient en savoir plus, votre appli web, c'est Easy Endo, disponible sur easyendo.fr. Les 15 premiers jours sont gratuits, puis c'est 5€ par mois. Merci encore,
merci
docteur.
Merci à vous. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Connaissez-vous le rhume de hanche? Non? Eh bien, c'est pas grave du tout. Jimmy va tout nous expliquer comment le reconnaître et surtout comment le soigner. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Bien-être, Santé, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi. Et à présent, on va passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Focus sur le rhume de hanche avec vous. Avez-vous déjà entendu ce terme? Que se passe-t-il concrètement dans le corps des enfants, surtout, qui sont touchés par ce problème? Quels sont les symptômes qui doivent y faire penser? Notre journaliste Valentin Piovesan vous a interrogé sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Le rhume de la hanche, je dirais que c'est un problème aux articulations qui entourent le bassin.
C'est un problème à la hanche et ça n'a rien à voir avec le rhume dont on parle habituellement.
Quoi, quand on marche, ça, je sais plus si ça cuine ou ça. Enfin, genre ça fait un truc quoi.
Oui, c'est vrai que la gamine, elle avait des problèmes un peu de marche quoi, de mobilité. Oui.
Donc c'est une douleur à la hanche, mais on ne tousse pas, on n'a pas le nez qui coule. C'est pas un rhume. Enfin, c'est très étonnamment appelé rhume de la hanche.
Ma grand-mère avait la même chose. Elle a eu un changement de hanche ou je sais pas, ils ont fait une opération pour lui mettre des nouvelles hanches ou un truc comme ça.
C'est super bizarre. C'est surtout les enfants qui sont sujets à ça. Et comme je suis dans l'enseignement, eh ben, j'ai déjà eu des élèves qui avaient ce problème.
Peut-être un décalage au niveau des articulations qui fait qu'on aurait besoin de semelles pour marcher.
Bon, alors non, on y est presque. Il y a du bon, il y a du moins bon. Jimmy, on va reprendre tout dès le début. Sur le rhume de hanche, la hanche, elle peut vraiment s'enrhumer ?
Eh bien... Oui, finalement, il y a une histoire. Ouais. Alors, le rhume de hanche, c'est ce qu'on appelle aussi la synovite aiguë transitoire.
Ah, voilà, là, ça fait plus médecin, là.
Ouais, c'est un nom barbare pour dire un truc hyper simple. C'est l'inflammation au niveau des hanches. Vous avez une membrane qu'on appelle la synoviale. Cette membrane, normalement, elle n'est pas inflammatoire. Et dans le rhume de hanche, elle va devenir inflammée et produire du liquide, un peu comme le nez qui coule. Et cette inflammation va aboutir à du liquide dans l'articulation qui donne ce rhume de hanche.
Bon, donc il y a bien la hanche qui coule d'une certaine façon, Jimmy. C'est un truc qui touche plutôt les petits enfants, je crois.
Oui, c'est la boiterie. C'est la cause de boiterie la plus fréquente chez l'enfant de 3 à 10 ans.
D'accord.
Ça survient par période d'épidémie. On ne sait pas trop pourquoi. Ça vient au printemps et en hiver.
D'accord.
Car on pense qu'il y aurait une explication virale derrière ce rhume de hanche. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'appelait aussi rhume de hanche.
Alors, j'allais vous demander quels sont les signes, mais vous l'avez dit, c'est la boiterie, clairement. C'est ça le signe qui doit faire penser au rhume de hanche.
Et ce qu'on doit dire, et ce que les parents doivent retenir, c'est qu'un enfant qui boite, c'est un enfant qui ne simule pas. Souvent, et j'ai pu constater ça, les parents me disent au début, on pensait que c'est du cinéma.
Semblant, ouais, c'est
on
ça.
L'a laissé. Il refusait de marcher. Et un enfant qui refuse de marcher, c'est un enfant qui a mal. Et parfois, ceux de 3 ans ne vont pas dire qu'ils ont mal, ils vont juste se mettre à marcher à 4 pattes, refuser de poser le pied au sol. Alors le premier réflexe que vous devez faire, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un traumatisme ? Est-ce qu'ils sont tombés la veille ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Et deux, vérifier s'il est à la température. Car un enfant qui boite et qui a beaucoup de fièvre, c'est peut-être une arthrite septique de hanche. Et là, c'est une véritable urgence.
D'accord.
Alors que dans le rhume de
hanche, s'il y a pas de fièvre,
l'enfant il boite, il dit j'ai mal ou je ne veux pas marcher. Il n'a pas de fièvre, il a un très bon état général. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, il vit sa vie, il va parfaitement bien.
Il peut être assis tranquillement. Correctement.
Mais dès qu'il met en tension la jambe, eh bien, il a mal.
Bon, vous l'avez dit, si c'est le rhume de hanche, donc sans fièvre, c'est pas vraiment une urgence, mais il faut quand même consulter vite. Hein. On va voir le pédiatre, le généraliste, on
Évidemment,
est d'accord.
Puisque le diagnostic, finalement, il est avant tout clinique. C'est-à-dire qu'avec l'interrogatoire, souvent, on retrouve une petite infection virale.
Exactement,
quelques semaines avant, une rhinopharyngite, une gastro-entérite. Et puis, l'enfant, brutalement, se réveille le matin, il ne veut pas marcher. Lorsqu'on l'examine, finalement, il va bien et on prescrit des examens complémentaires, mais on commence le traitement.
Des radios
avant même...
des...
Alors, dans un premier temps, on peut proposer des radios.
On commence le traitement d'abord, vous prenez
Alors,
quoi
Le traitement, c'est qu'on propose de laisser l'enfant au repos. On le laisse se reposer. On lui prescrit des médicaments contre la douleur. Le plus fréquent, c'est les anti-inflammatoires. Mais attention, ces anti-inflammatoires sont contre-indiqués quand on pense qu'il y a une véritable infection. Et donc, on a tendance à envoyer les enfants faire une radiographie qui sera normale et puis une échographie pour vérifier qu'il y a bien du liquide et rien d'autre. On complète parfois avec un bilan biologique qui montre qu'il est normal, pas de syndrome inflammatoire. Et l'évolution, elle est favorable dans l'immense majorité du temps.
En général, ils se remettent à marcher correctement au bout de combien de temps ? Parce que j'imagine qu'on ne les met pas à l'école pendant
dans
ce
quelques
temps.
Jours, au bout de quelques jours, tout rentre dans l'ordre. Mais parfois, il y a une récidive dans 20% des cas. Donc, ça peut recommencer. Et dans un certain nombre de cas, il y a une atteinte bilatérale, c'est-à-dire les deux hanches sont touchées. Et là, on fait plus d'examens pour savoir si on n'est pas passé à côté de quelque chose.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est tout de suite Catherine Blanc qui nous rejoint, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Claire que le docteur Jimmy Mohamed va nous lire avec un grand plaisir.
Évidemment, je vis chez mon copain depuis maintenant 6 mois. Le problème, c'est qu'il partage son appartement avec son frère. Si je trouvais ça convivial au début, la situation a tendance à m'agacer. J'ai l'impression de ne pas vivre pleinement mon couple. Comment lui dire sans qu'il se vexe ? Bon, déjà que la vie à 2, c'est dur. Alors la vie à 3, on peut comprendre. Il n'y a pas de mal en fait, de dire que c'est dur, non ?
Bon, je crois qu'au début, c'était très charmant parce qu'être la seule femme au milieu de ces deux hommes, arriver au milieu d'une fratrie, c'était très convivial, bien sûr. Mais au bout d'un moment, effectivement...
Au bout d'un mois, ça va, quoi.
Au bout d'un moment, elle a le sentiment quand même qu'elle est toujours la pièce rapportée, finalement.
La vie amoureuse en colocation, ce n'est pas toujours évident. Hein.
La vie amoureuse en colocation et qui plus est, en colocation avec deux frères qui ont une complicité ou une rivalité, donc elle est au milieu de tout cela, certainement un enjeu compliqué, et puis surtout elle n'est pas le centre du monde, et ça c'est pas très 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 agréable.
C'est possible d'entretenir vraiment une relation sentimentale, je sais pas, surtout pour les jeunes, quoique maintenant il y a des gens de plus âgés qui vivent en colocation également. C'est quoi le conseil pour avoir une vie sentimentale et un peu d'intimité, surtout quand on est en coloc ? Vous avez quelques règles éventuellement ?
Alors, il n'y a pas de règles bien sûr, mais...
Isolation peut-être ?
Le fait est que c'est sûr que ce peut être un moyen d'éviter la rencontre, et notamment la jeunesse, et on peut vite finir par coucher ensemble et tout le reste du temps être tous des amis et des potes ensemble et l'auberge espagnole, ce qui peut être évidemment compliqué parce qu'une relation sexuelle, elle a besoin de la construction d'une relation. Elle a besoin d'échanges, elle a besoin de complicité en dehors du lit et elle ne peut pas se réduire. Le couple n'est pas simplement le fait d'être dans le même lit et ou faire l'amour le cas
échéant.
Il faut
dîner ensemble tous les deux, il y a des choses comme ça qui sont des passages un peu importants.
On n'est pas obligé d'être dans une relation de fusion. Mais on a besoin d'espace pour construire la spécificité de la relation. Il n'est pas question de promouvoir l'idée très très fusionnelle et excluante des autres. Je pense que notre société souffre de ça, où on est très dans des relations fusionnelles et nous avons du mal au partage, du mal à la tranquillité dans les interactions avec les uns et les autres, comme si on allait perdre notre pouvoir magnifique. Mais cela étant, sans être dans la fusion, il faut quand même pouvoir nouer une qualité de relation, écrire une histoire d'amour comme une histoire érotique.
Vous avez vu, la première chose à laquelle Mélanie a pensé, c'est d'aller chez Castorama créer des cloisons
pour l'isolation
sonore.
Je vais demander des conseils pour la coloc et les sentiments amoureux.
On voit bien où vous voulez en venir. Mais d'un point de vue purement pragmatique,
moi,
peut-être qu'on
n'a
aussi pas le choix, en fait, si on vit en colocation. C'est peut-être que la situation financière ne le permet pas d'être autonome et d'être indépendant. Donc, il faut aussi à faire avec, tout simplement.
Oui, de toute façon. Et puis, on va devoir faire avec plus tard, puisqu'on fera des enfants.
Et après, c'est la coloc.
C'est la colonie de vacances. Croyez-moi que c'est pire que la colocation. La colocation à côté, c'est sympa.
C'est ça.
La colonie de vacances,
c'est plus difficile. Pour l'intimité, c'est pas top non plus.
Parce qu'on n'est pas payé en plus, hein, quand on fait ça à la maison. Et c'est nous qui payons en plus pour les enfants. Donc, c'est pour vous dire, vous travaillez et en plus.
Vive la coloc, finalement.
Vive la coloc, croyez-moi. Profitez de ce moment de jeunesse et d'ignorance.
C'est ça. Donc, de toute façon, il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à faire avec les autres, il faut apprendre à accepter que d'autres s'immiscent entre moi et celui que je désire. Donc, ça fait partie de notre vie aux uns et aux autres. Donc, ne soyons pas allergiques à l'idée de la colocation. Simplement, ça pose évidemment toujours des problématiques. C'est-à-dire que pour celui qui est en dehors, là, le frère en l'occurrence, c'est l'idée d'être mis sur la touche. Du coup, il recherche la complicité avec son frère. Donc, ça crée des tensions. Et puis, il y en a un qui devient l'objet d'amour des deux, à savoir celui du frère et celui de la copine. Donc, il faut apprendre à vivre avec ça. Après, c'est pas facile, mais effectivement, comme vous le disiez très justement, c'est la vie. On fait avec la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est l'occasion d'apprendre aussi ce qui nous pose problème pour essayer de comprendre où est-ce que sont nos doutes, nos fragilités.
Claire a dit que ça fait 6 mois qu'elle vit donc chez son copain maintenant et qui donc vit avec son frère. La situation semble quand même l'embêter de cette colocation. Est-ce que bon, au bout de 6 mois, elle peut déjà se permettre de lui dire, écoute, ça serait pas mal qu'on prenne notre appart à tous les deux, ou est-ce que c'est délicat à aborder? Je ne sais pas.
Non, je crois que si, bien sûr, il faut pouvoir.
Elle a le droit de lui poser la question en tout cas.
Oui, oui. Et c'est pas parce que c'est un problème vis-à-vis du frère. Je pense que d'une façon générale, si on est en couple, si ce n'est pas la liberté de dire.
S'il vient proposer de s'installer chez lui, c'est que bon, ils sont déjà c'est un peu sérieux, quoi, je veux dire.
Bien sûr. Et puis, de toute façon, il faut bien se dire sérieux, pas sérieux, ou en tout cas, si on chemine ensemble, c'est dès lors, c'est la possibilité de se parler. Si au nom du fait que c'est tout jeune, on ne peut pas parler, ça veut dire que la relation ne s'établit que sur la base de la soumission de l'un vis-à-vis de l'autre et des malentendus que l'on va créer. Et après, plus tard, on va se retrouver à se plaindre ou à consulter pour un sujet qu'on a laissé se mettre en place sans mot dire. Donc je crois que la première des choses, le propre de l'adulte, c'est de pouvoir mettre des mots sur ses émotions, sur ses sensations, sur ses mal-êtres, pour laisser l'opportunité à l'autre, non pas d'obtempérer, mais de comprendre et éventuellement d'apporter des solutions, pourquoi pas.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci à vous de nous avoir accompagnés cet après-midi. Je vous donne rendez-vous demain, sans rendez-vous, à 15h.